Édouard Jordan, pour cette troisième partie, restons encore un petit peu alors sur ce qu'on a déjà évoqué dans les parties précédentes, la stratégie qui s'oppose à vous, elle s'oppose évidemment aux militants et aux candidats. Vous avez, je crois, récemment, devant la presse, nos confrères de la presse écrite, fait savoir que vous ne donneriez pas de consigne de vote. Je crois que votre position aujourd'hui n'a pas varié.
Ah, bien au contraire, je maintiens ma ligne de ne pas donner de consigne de vote et je m'en explique. Je considère que chacun est responsable de ses décisions. Chacun doit décider librement, souverainement, du choix qu'il souhaite faire, selon sa conscience politique, selon ses valeurs propres et selon sa propre définition de l'intérêt national et général. À partir de là, les partis politiques, et le mien également, n'est pas propriétaire de ces voix, ce n'est pas un capital voix dont nous disposons. Donc, à partir de là, chacun doit assumer ses propres décisions et donc, dans cette ligne, je ne suis pas du tout favorable à donner des consignes de vote. Mmh. Du coup, je ne donne pas de consignes de vote. Au cantonal, je n'ai pas donné de consignes de vote au second tour.
Et aux législatives.
Et aux législatives, ça sera pareil pour ma part.
Si vous me permettez cette remarque, c'est pas forcément le message qu'on attend d'un secrétaire départemental. Souvent, ça se passe différemment. On dit aux gens, vous avez voté pour nous, continuez à voter pour nous. Sinon des consignes, du moins des recommandations. Vous, c'est clair, c'est net.
C'est clair, c'est net. J'assume pleinement. Je considère que chacun doit décider en toute liberté et sans aucune pression, quelle qu'elle soit, morale ou politique, extérieure et qui plus est, de parti politique.
Oui, de toute façon, ça, c'est un petit peu, c'est la réelle politique, finalement, parce que c'est vrai que vous pouvez donner des recommandations et des consignes, les gens les suivront ou ne les suivront pas.
Tout à fait. L'histoire politique des dernières années nous a bien démontré que, malheureusement, ou heureusement, les consignes politiques n'avaient que des faits, finalement, pour les intéresser.
Oui. Et que finalement, quand même, en France, malgré les petits défauts de la démocratie française, le vote secret existe et se perpétue.
Et se perpétue. Et je crois que c'est d'ailleurs un principe constitutionnel et qui est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est le principe d'un vote libre, souverain et secret.
Oui. Donc, il ne peut être libre et souverain que s'il est secret. C'est l'efficacité. Et alors, pourtant, Édouard Jordan, vous allez présenter des candidats aux législatives, à la députation.
Oui.
Sur les circonscriptions de l'Aude.
Bien entendu. Je prendrai pleinement part à la campagne des législatives aux côtés de Laurent Pérez sur la première circonscription et de Quentin Estrade sur la deuxième circonscription. Je considère que aujourd'hui, notre famille politique a le devoir de se lancer de toutes ses forces, de toute son énergie dans ce combat des législatives pour que nous ayons des parlementaires ancrés dans le terrain, dans le territoire. Et je crois qu'on peut faire pleinement confiance à Laurent Pérez et Quentin Estrade pour justement connaître cette réalité, connaître les problématiques et porter la voix du peuple de l'Aude à l'Assemblée nationale. Alors, et apporter des solutions.
Vous avez cité deux noms, Édouard Jordan. Il y a trois circonscriptions. Donc il y en a une, il n'y aura pas de candidat.
Écoutez, pour l'heure, le candidat qui était initialement investi a fait acte de retrait. C'est sa décision qui lui appartient. Je ne la commenterai pas. Les jours qui arrivent nous diront s'il y aura un candidat ou pas sur cette troisième circonscription.
Voilà, c'est pas définitif.
C'est pas définitif.
Ça peut arriver. Alors évidemment, on est en plein pour ces législatives dans les grandes réunions d'état-major pour alliance ou pas d'alliance. Alors je crois que la réponse, vous l'avez à peu près donnée aussi.
Écoutez, nous, les choses sont claires. Une fois de plus, les Républicains ont un accord national avec les centristes d'Hervé Morin.
Oui, ça c'est acquis.
Hein, c'est le cas, puisque Quentin Estrade...
Voilà, est soutenu par les centristes.
Par les centristes et par les républicains. Cet accord national agit donc de la sorte, et de même avec l'UDI, où il y a des accords au cas par cas. Donc pour nous, je crois que la problématique est donc entendue. Après, laissons la gauche dans ses tambouilles politiques dont elle a le secret entre M. Mélenchon et ses divers comparses.
Mais, Édouard Jordan, forcément, vous êtes bien conscient qu'en partant seul, ça n'est pas facile et que les scores risquent d'être en conséquence. Surtout dans un département où les Républicains n'ont jamais été hégémoniques, ni même majoritaires.
Vous savez, moi, je ne tire pas de plan sur la comète. Attendons que nos compatriotes s'expriment et nous verrons les résultats. Pour ma part, j'ai pleinement confiance en nos compatriotes pour choisir un de nos candidats et des candidats qui ne sont pas là pour un simple tour tel une étoile filante, mais pour réellement s'engager au service du territoire.
Oui, donc vous êtes pour, si vous me permettez l'expression, pour du développement durable.
Si vous voulez, c'est en quelque sorte du développement durable politique.
Oui, voilà. Alors, donc, les candidats pour LR, il y en aura. Maintenant, on sait, on l'a vu au niveau des présidentielles, ce qui est arrivé à ces partis, et beaucoup de gens à droite comme à gauche se posent la question de l'avenir. Vous aussi, je suppose.
Oui, il faut pas faire de langue de bois et je considère que la situation impose d'avoir une vision claire des choses. Comme je vous le disais en introduction de notre rencontre aujourd'hui, notre offre politique ne pourra pas faire l'économie d'une révision. Pourquoi notre candidate, ça n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est un problème d'incarnation? Est-ce que c'est un problème d'idées, de projets, de valeurs que nous portons? Est-ce que le projet de société, le projet politique que nous souhaitons incarner, a-t-il même toujours sa place? Il faut se poser la question, clairement. Et à toutes ces réponses, à toutes ces questions, pardon, nous aurons à apporter des réponses. Mais aujourd'hui, priorité des priorités, ce sont les élections législatives. Nous sommes mobilisés à 100% pour justement aller sur le terrain et porter nos idées auprès de nos compatriotes. Après viendra le temps de la réflexion, des bilans et du lancement de la rénovation. Comme l'a dit David Lénard, le maire de Cannes et président des maires de France, la droite, c'est un projet, c'est une idée, c'est une vision. Donc, nous aurons bien sûr à travailler tout cela, pas simplement en interne, mais aussi avec nos compatriotes.
Et alors, parmi les choses concrètes, forcément, qui à un moment seront mises sur la table, dans le fonctionnement, il y aura ces primaires. Est-ce que ce parti, les Républicains, vous semble fait pour les primaires?
Je vous réponds du tac au tac, non. Non, et c'est une position là aussi très personnelle, hein, puisqu'en général...
Ce n'était pas dans la culture et dans les habitudes.
Ce n'était pas du tout dans notre culture politique et dans notre fonctionnement même interne à notre famille. Aujourd'hui, ça fait maintenant 2 fois que nous faisons l'expérience. Je dirais, arrêtons les frais.
Oui, et alors ça veut dire que vous allez revenir, enfin vous proposerez peut-être à un moment, dans des discussions à venir, un fonctionnement qui soit plus traditionnel sur le choix, par exemple, du leader et de celui ou celle qui va représenter le parti.
Historiquement, le président du parti, et vous m'aviez posé la question déjà lors d'une précédente émission, était le candidat naturel de notre famille. C'est vrai que cette fois, ça n'a pas été le cas. Et quelque part, est-ce que ça nous a handicapés? Peut-être. Est-ce que ce processus de départage, cette méthode de départage mise en place en octobre dernier, avec ses qualités et ses défauts, est-ce qu'elle nous a porté préjudice ou pas? Je ne sais pas. En tout état de cause, elle a permis d'avoir une seule candidature au nom des Républicains. Ça, il faut le reconnaître. Après, personnellement, je maintiens que je ne suis pas favorable aux primaires. En 2017, il y a eu 16 et 17, il y avait eu la primaire ouverte à laquelle j'avais refusé de prendre part pour la bonne et simple raison. Je considère que ce n'est pas dans notre fonctionnement et ça n'apparaît pas un bon moyen de désigner notre candidat.
Oui, oui, oui. Donc,
et si vous me permettez,
oui,
M. Jules,
mais bien sûr.
Je considère aussi que c'est quelque part une américanisation un petit peu de notre modèle partisan et constitutionnel, puisqu'en définitive, avec ces primaires, nous essayons de faire un troisième tour ou un premier tour anticipé de l'élection présidentielle. Et ça, je pense pas que ce soit quelque chose de favorable pour l'expression démocratique. Après, c'est une position personnelle.
Alors justement, les institutions telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, c'est pas tout à fait ce qu'avait voulu le général de Gaulle, puisque aujourd'hui on vote, on est dans un système qui est hyper présidentiel, puisque on vote pour un président pour 5 ans. Dans le sillage, on vote pour un parlement qui est presque par la force des choses l'émanation de la volonté du président. Et alors certains disent il faut revenir sur ce système-là, il faut bâtir ou lancer ce que certains appellent une sixième république, peu importe. Mais est-ce qu'il vous semble nécessaire ou indispensable de revenir en tout cas à un système qui dissocie davantage l'élection du président de celle des parlementaires?
Oui. Personnellement, je pense que notre République, malheureusement, les multiples réformes successives n'ont pas tout amené, finalement, en renforcement de la démocratie. Je m'explique. L'institution du quinquennat, qui avait été annoncée comme une révolution pour favoriser, finalement, le recours au scrutin pour l'élection du chef de l'État, qu'a-t-elle produit comme effet? Elle a réduit la permanence, finalement, du rôle du chef de l'exécutif, du chef de l'État en tant que tel, comme on a pu le connaître du temps du septennat. Deuxièmement, elle a calé le temps de mandat du président sur celui du Parlement. Et par-dessus tout ça, elle a positionné l'élection présidentielle avant l'élection législative.
Hiérarchiquement, on peut dire.
Hiérarchiquement et automatiquement, cela a créé finalement une filiation, puisque quelque part, l'exercice nous le montre encore cette année, eh bien les députés, la majorité parlementaire va découler finalement uniquement de la légitimité du président élu un mois et demi avant.
Ce qui est une sorte d'affaiblissement du pouvoir législatif.
C'est, je dirais, pousser à l'extrême le parlementarisme rationalisé voulu en 1958 par le général de Gaulle et Michel Debré. Je crois que il faut revenir à l'essence du texte constitutionnel de 1958 qui était équilibré et qui permettait à la fois d'avoir un pouvoir exécutif solide, fort et incarné, d'une part, et d'autre part, une majorité parlementaire indépendante du président, puisqu'elle remit en question plus régulièrement, est vraiment en charge avec le gouvernement de la politique de la nation, des destinées de la nation, et permettant au président de la République d'être plus dans l'incarnation de la France, dans l'incarnation de l'autorité de l'État, qu'aujourd'hui, on voit où finalement le président est devenu un super premier ministre avec des pouvoirs élargis au niveau militaire et diplomatique.
Voilà. Mais c'est sur ce souhait, alors que probablement un souhait pour lequel vous vous battrez à l'avenir.
Exactement.
Puisque vous êtes jeune et vous avez encore pas mal d'avenir, y compris peut-être à ce poste. Merci en tout cas, Édouard Jordan, d'être venu avec nous.
Merci beaucoup, Monsieur Jules, de m'avoir accueilli aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de venir échanger avec vous. Et merci encore à vos auditeurs.
On vous retrouvera donc à mesure que les choses vont s'évoluer dans quelques semaines, quelques mois, inéluctablement. Le prochain invité sera Éric Ménassy, qui est maire de la commune de Trèbes, qui est également président de l'association des maires de l'Aude. On a beaucoup parlé de maires. Après quoi, je recevrai eh bien les deux directeurs du musée Narbovia prochainement. Catherine Bossis également est pressentie, elle est conseillère régionale. Et puis, un peu plus tard, je recevrai également Éric Camus, qui est le procureur de la République de Narbonne. Voilà un programme pour quelques semaines. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Rendez-vous à la semaine prochaine.